Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne. Et aujourd'hui, je fais à nouveau un question-réponse avec mes abonnés en live sur TikTok. Donc on va aborder plein de sujets différents. Je me réjouis que vous écoutiez l'épisode. Il y aura sûrement plein de thématiques qui vont vous parler. Et voilà, je vous souhaite un bel épisode. Alors, une autre question. Est-ce que c'est possible d'être amoureux sans être attaché? Alors, je ne sais pas vraiment ce que tu entends par là. Je pense que... Alors, voilà, je ne te connais pas, donc c'est vraiment des suppositions, mais je pense que c'est plutôt des insécurités qui parlent, parce qu'on est dans une société où on a l'illusion qu'on peut vivre des relations avec les gens sans s'attacher, qu'on peut coucher avec des personnes, qu'on peut entretenir des relations, mais voilà, je ne m'attache pas. Puis je peux terminer la relation quand je veux, ça ne va pas me toucher. Mais ça, c'est une grande illusion. On est des humains. À la base, c'est le règne animal, quoi. Et puis, on a des sentiments. Il faut avoir de côtoyer des gens, d'avoir une intimité, que ce soit dans la parole ou même physique. On s'attache forcément qu'on développe des sentiments, des attaches émotionnelles, etc. Donc, je pense que c'est un peu une illusion que de penser qu'on peut avoir des relations sans être attaché, être amoureux, avoir des sentiments sans s'attacher. C'est plus, je pense, une peur de l'engagement et que c'est une façon de te protéger en disant non, je ne suis pas attaché, je ne veux pas prévoir des choses, je ne veux pas me projeter avec la personne parce que y a des peurs, justement, que la relation se termine ou d'être trompé. Ou voilà. Ça, c'est mon hypothèse. Il y a une nouvelle question. Comment diagnostiquer la bipolarité chez un homme? Donc, le trouble bipolaire, c'est un trouble de l'humeur où il y a une alternance entre des phases dépressives, avec une humeur très basse, et des phases qu'on appelle hautes, des phases maniaques, qui sont caractérisées par vraiment une énergie qui est décuplée. Vraiment, il y a une fuite des pensées, tout va très vite. C'est des personnes qui dorment, du coup, des phases où les personnes dorment très peu. Il y aura beaucoup d'impulsivité, que ce soit au niveau des achats, au niveau de la sexualité. Et c'est une alternance de phases comme ça. Puis il y a des personnes qui sont plus dans le bas, d'autres qui sont plus dans le haut. Et puis, ça peut être difficile à diagnostiquer parce que ça se voit souvent sur le temps. Parfois, on va confondre ça avec simplement une dépression classique. Et puis, c'est après, dans l'alternance de phases, qu'on va tout d'un coup pouvoir voir que c'est un trouble bipolaire. C'est pour ça que c'est un diagnostic qui peut prendre parfois longtemps. Et puis après, pour le traitement de ça, il y a tout un travail psychothérapeutique, évidemment, pour apprendre à gérer ces phases-là. Et puis, il y a des stabilisateurs d'humeur, notamment au lithium. Ça paraît bizarre d'utiliser du lithium, mais c'est des stabilisateurs d'humeur. Donc là, c'est des médicaments, mais qui peuvent être super utiles pour vraiment stabiliser les gens, pour éviter de faire d'alternance de phase. Ah, là, il y a une question intéressante. As-tu des conseils pour accepter sa calvitie? Alors, c'est intéressant parce que je pense que c'est un homme, je ne vois pas la photo de profil, mais je pense que c'est un homme qui parle de ça. Il y a aussi des femmes qui souffrent de calvitie, mais c'est plus fréquent évidemment chez les hommes. Ça revient à toute la question de l'acceptation de soi, l'acceptation de comment on est, l'acceptation de notre apparence physique. Donc, c'est important d'aller creuser du côté de l'estime de soi. Et puis, alors maintenant, il y a toutes ces options d'aller se faire remettre des cheveux en Turquie, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Si pour toi, c'est vraiment invivable cette calvitie, pourquoi pas aller dans une démarche comme ça, ça peut être une option. Et puis autrement, c'est vraiment en fait d'assumer ça, d'arrêter de voir ça comme un manque, de dire que tu as un manque de cheveux, que c'est quelque chose que tu avais, que tu as perdu, parce que tout ça, ça nous met dans un état d'esprit de perte. Et puis l'être humain, il n'aime pas perdre. Et plutôt de voir en fait ça comme un changement, comme quelque chose que tu as en plus. On pourrait se dire, il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui trouvent les hommes avec une calvitie ou les hommes chauves très séduisants. Il y a plein d'acteurs, Bruce Willis, Jason Statham, qui sont des grands beaux gosses et qui ont fait, même de c'est leur marque de fabrique, hein, leur calvitie. Donc, c'est déjà de ne pas te juger, de ne pas partir du principe que c'est forcément négatif, et puis d'arriver à finalement aimer ces défauts, et puis, enfin, ces défauts, ce que tu considères comme des défauts, et puis d'arriver à en faire une force. Si tu caches ta calvitie, ben, aller à vraiment l'inverse. Vraiment, j'assume, je me rase la tête, plutôt que d'essayer de cacher un petit peu avec une casquette ou un bonnet ou comme ça. Puis vraiment, d'aller peut-être dans ce sens-là. J'espère que ça peut t'aider. Que pensez-vous des coachs de vie et de leur apport dans l'accompagnement d'une personne? Alors, les coachs de vie, il y a à boire et à manger, comme dans toute profession finalement. Il y a des très bons coachs de vie, puis des très mauvais. Alors, le problème avec le coaching de vie, c'est que c'est des formations parfois qui sont assez courtes. Et donc, ben, moi, je trouve les outils de coaching fabuleux. Il y a des super outils. Ma pratique, elle est essentiellement centrée autour de techniques de coaching. Donc ça, c'est vraiment top. Puis les techniques de coaching, elles ont été créées par des psychothérapeutes. Donc c'est des choses vraiment carrées. Mais ben, ça demande, c'est pas seulement des techniques, en fait, l'accompagnement. C'est toute une connaissance de l'humain, aussi de comment être en relation avec l'autre. Et ça, ben, malheureusement, dans les écoles de coaching, on nous apprend pas vraiment à le faire. Et donc, ben, moi, j'ai eu tout un cursus, 5 ans d'uni en tant que psychologue. Et par-dessus ça, j'ai rajouté des techniques d'accompagnement. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font des formations de coaching qui ont pas du tout un métier dans l'humain avant ça, qui sont, j'en sais rien, peut-être garagiste ou jardinier ou je dis n'importe quoi, secrétaire. Et le problème, bah, c'est que, OK, ils auront appris quelques techniques, mais ils n'auront pas de connaissances en psychopathologie et ils n'arriveront pas à détecter est-ce qu'une personne, justement, il y a un risque pour sa vie, à quel point, voilà, déceler des causes psychopathologiques, des troubles. Et donc ça, malheureusement, ça manque. Et ce que ça rend embêtant, c'est que ben, les coachs de vie vont souvent dépasser un peu leurs compétences et puis parfois ben, faire plus de mal que de bien à certaines personnes. Mais voilà, il y a aussi des coachs qui sont vraiment super. Et je pense que, et ça pour les coachs comme les psys, il faut savoir où se trouvent nos limites et il faut savoir l'exprimer. Et ça, moi, je le fais aussi. Hein. Il y a des problématiques que je prends. Puis il y a des problématiques où des fois, je sens que je ne suis plus compétent et je dis aux gens, voilà, je suis désolé, merci pour votre confiance, mais pour cette problématique, je ne suis pas la bonne personne et je vais vous recommander chez tel collègue qui a une meilleure approche ou une meilleure connaissance. Alors, ça peut être frustrant des fois pour les gens, mais c'est primordial pour un professionnel de la santé mentale comme physique de savoir dire ça, je suis compétent. Ça, je ne le suis plus, et de savoir mettre la limite. Il y a une jolie question aussi là, c'est comment est-ce que je me protège de mes patients qui voudraient être trop intrusifs? Alors, j'ai de la chance, j'ai des patients, moi je parle de clients plutôt, parce que, alors je le précise, parce que chaque fois ça a fait scandale sur les réseaux, quand je parle de clients parce que dans les approches anglo-saxonnes, on parle de clients plutôt que de patients. Puis aussi, ben, moi je vois les gens qui viennent me voir comme des clients, parce que je les vois comme des gens qui cherchent simplement à résoudre des problèmes en faisant appel à mes services. Je ne les vois pas comme des personnes malades. Voilà, fin de la parenthèse. Donc, mes clients ne sont pas trop intrusifs. Donc, je n'ai pas... Franchement, j'ai de la chance à ce niveau-là. C'est peut-être aussi que je ne travaille pas avec des gens qui ont des psychopathologies lourdes. C'est plutôt des psychothérapeutes ou même dans des secteurs hospitaliers. Où là, il faut vraiment faire attention parce que c'est des gens qui peuvent être, je sais pas, qui peuvent appeler énormément. Moi, c'est pas mon type de clientèle. Donc ça, ça me protège déjà. Et puis, ben, c'est en fait savoir mettre des limites très claires. C'est, par exemple, sur les réseaux sociaux, je réponds de temps à autre à des petites questions si elles sont pertinentes, mais je fais pas du coaching par message. Donc, mes messages sont réservés aux prises de rendez-vous. Et puis si des gens me contactent sur mon téléphone, déjà je me laisse le choix de pas répondre. Si j'ai pas envie de répondre, je préfère les messages. Et puis voilà, pareil, si je vois que c'est des personnes qui vont essayer de faire une consultation par message WhatsApp, je vais remettre le cadre en leur disant que ils peuvent me contacter pour changer des rendez-vous. mais pas pour plus que sinon il faut en parler en consultation. Donc c'est comme dans n'importe quelle relation, la relation psy et client, ben c'est important d'avoir un cadre, que ce soit défini, ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, comme dans toute relation, pour éviter que ça déborde. Que penses-tu lorsque dans un couple, le conjoint vient raconter toutes les disputes à toute sa famille? Ben écoute, je peux comprendre que ça te gêne et en effet, c'est embêtant parce qu'il y a un manque de limites. Ça veut dire que en fait, votre intimité n'est pas protégée et qu'en fait, c'est pas, il n'y a pas un couple, il y a une entité qui est avec sa famille. Donc ça, c'est très embêtant parce que tu dois pouvoir avoir cette sécurité, cette confiance dans le fait que il y a une part qui est protégée dans ce qui se passe dans votre couple. Ça veut pas dire que la personne ne peut rien dire en dehors, mais c'est important de savoir qu'il y a des choses qui peuvent rester dans votre intimité, puis se mettre d'accord sur qu'est-ce qui peut être partagé et de savoir vraiment mettre des limites par rapport à ça pour protéger votre couple et pour qu'il puisse durer. J'ai subi une opération chirurgicale il y a 2 jours et je suis un peu choqué. Des conseils. Alors, ça mériterait d'avoir plus de précision, mais alors, à voir hein, peut-être comment ça évolue, peut-être attends 1-2 semaines pour voir comment c'est, mais si tu vois qu'il y a toujours des vécus qui sont difficiles, ça peut être sur certains des flashs ou des sensations étranges ou de l'anxiété, ça peut valoir la peine de voir un psychologue, pourquoi pas un psychologue d'urgence qui est capable de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, sur les sensations aussi. Il y a une approche qui s'appelle le somatic experiencing qui parle beaucoup de ça et qui parle en fait du fait que, par exemple, des opérations, des anesthésies générales, etc., ben, peuvent être vécues vraiment comme des traumatismes. Et puis, dans le somatic experiencing, il parle du trauma comme étant une incapacité de sortir de la réponse de figement lorsqu'on est stressé. Quand on est stressé, si on regarde les animaux, il y a un stress, ils fuient, et puis parfois, ils se paralysent pour faire le mort. Et puis, quand ils sortent de cette paralysie, ils tremblent comme ça. Si vous regardez les documentaires animaliers, vous allez voir les gazelles, par exemple, quand elles échappent de justesse à un lion, après, elles doivent trembler un moment. Ça permet d'évacuer toutes les hormones du stress. Et le problème, c'est que les humains, ben, des fois, on ne peut pas faire ça, on ne le fait pas. Et puis, du coup, on reste avec tout ce stress et ça crée un trauma. Donc, dans l'approche du somatic experiencing, l'idée, c'est d'aller retourner dans les sensations, dans le vécu sensoriel, pour pouvoir ensuite sortir de ce figement et retrouver, enfin, pouvoir évacuer ça. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça à faire avec toi. Voilà. On arrive à la fin de ce podcast. J'espère que vous l'aurez apprécié. Comme d'habitude, laissez des évaluations sur les plateformes de podcast ou sur YouTube. Vous pouvez mettre des commentaires, abonnez-vous, partagez. Ça m'aide vraiment énormément. Je vous remercie pour votre fidélité. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.